Bien le bonjour, bon matin, bienvenue. Nous sommes déjà rendus à l'édition du 30 novembre, 31 jours avant la fin de l'année et 25 jours avant Noël. Bon, ceci dit, c'est Hélène Bédard qui vous parle et avec moi en studio, j'ai Francine Forget, bon matin.
Bonjour Hélène, vous allez bien ce matin?
Ah, écoute, ça va très bien. Merci.
Bon, j'ai bien hâte de voir de quoi vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Moi, je vais vous parler de communautaire, je vais vous parler de retour du balancier quand on passe d'enfant à parent aidant nos parents. Enfin, je vais vous concocter tout ceci. Et à la régie, nous avons notre fidèle Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bon matin.
Et voilà, alors je vais aller avec la présentation de Francine Forget.
Bien, merci, merci c'est Hélène, à c'est à moi. Bon, alors moi, je vais être un petit peu nostalgique, pas toute l'heure, mais disons en première partie d'émission. Je reviens sur le dossier Internet, La vie avant l'Internet, qui a été publié cette semaine dans la Presse Plus. Et je vais commencer par un texte de Marc Cassivi, Lettre à un jeune journaliste. Salut à toi, jeune journaliste. Toutes mes félicitations, tu as choisi une profession stimulante et essentielle. Ça, c'était la bonne nouvelle. Voici la mauvaise. On ne se racontera pas d'histoire. Les temps sont durs pour les chiens de garde de la démocratie. Les journalistes n'ont pas particulièrement bonne presse et le journalisme n'est pas ce que l'on entend lorsqu'on parle de métier d'avenir. L'époque médiatique est plutôt compression budgétaire et à la réduction des effectifs. Des médias disparaissent. Ceux qui subsistent embauchent peu de journalistes. Et désolé de te l'apprendre, mais les cachets de pige n'ont pratiquement pas augmenté depuis ta naissance.
Ouf!
Ça, c'est vrai.
Ouais.
Je ne t'écris pas pour te décourager, au contraire. S'il est une chose qui devrait te réjouir, c'est que tu as la chance de pratiquer ton métier dans des conditions technologiques à des années-lumière de ce qu'elles étaient à mes débuts il y a 25 ans. Alors imaginez, là, Marc Cassivi, là, c'est quand même pas un vieillard là,
non,
de 100 ans. Hein?
Non, pas du tout.
Lorsque j'ai commencé à écrire à la presse, j'avais 20 ans. Non seulement je n'avais pas accès au web, qui n'avait pas encore été démocratisé, mais je n'avais jamais eu d'ordinateur. J'écrivais mes textes au crayon à mine avant de les recopier à l'ordinateur au journal étudiant de l'université. Je les transférais ensuite sur une disquette que j'allais déposer à la presse, en autobus et en métro. Une heure et demie de trajet, aller-retour, pour accomplir ce que tu fais aujourd'hui en quelques secondes de n'importe où. À la presse, au début des années 90, le parc d'ordinateurs était jurassique. Des mastodontes aux écrans noirs, avec un traitement de texte aux lettres vert fluo qui datait d'une autre époque. Mais vous rappelez-vous de ça, le vert fluo? Très difficile pour les yeux.
Eh oui.
J'avais l'impression de communiquer avec HAL, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, lorsque je tentais, par une improbable combinaison de touches, d'effectuer un simple copier-coller. Les ordinateurs soi-disant portatifs de la rédaction pesaient une tonne et quart. Le risque de lumbago nous guettait à chaque affectation à l'extérieur de la ville. Pour transmettre un texte, il fallait parfois poser une suce sur le combiné d'un téléphone fixe en espérant entendre le chuintement mélodique d'une ligne de modem. J'ai déjà mis 2 heures à envoyer un texte du Festival de Cannes à 4 pattes sous le comptoir du hall de l'hôtel après avoir branché mon ordinateur au fax en pleine nuit. À Cannes, pas à Kaboul. En reportage à l'étranger, on faisait des appels à frais virés, de cabines téléphoniques, avec des numéros à 27 chiffres. Pour trouver un numéro de téléphone local, fallait fouiller dans un bottin. On connaissait l'ordre des lettres de l'alphabet à l'époque. Aujourd'hui, on ne se souvient même plus du numéro de téléphone de nos amis. Et on préfère, de toute façon, qu'ils nous envoient des textos. La presse publiait des photos tirées à exemplaires uniques sur du papier photographique conservées au service des archives. Certaines, plus anciennes, étaient détourées avec du liquid paper pour mettre en valeur les visages de Maurice Richard ou de Maurice Duplessis. Rien n'avait encore été numérisé. Lorsque quelqu'un avait commis un crime ou avait été la victime, on n'avait pas le loisir de publier une photo de son profil Facebook. On lisait des revues de presse photocopiées. Le papier journal était précieux. On conservait certaines coupures de presse. Comme cadeau de fin de stage à la presse, d'ailleurs, on m'a offert un encadrement d'un reportage que j'avais réalisé dans les pages économiques à propos de l'impact du coût du papier sur l'avenir des journaux. Alors, c'est une chronique de Marc Cassivi qui a été publiée cette semaine, en fait, le 25 novembre, dans la Presse Plus. C'est pas juste de la nostalgie, mais c'est de voir aussi le chemin qu'on a parcouru.
Oui.
Alors, j'aurai d'autres articles sur le sujet un petit peu plus tard.
Bien hâte de les entendre. Merci, Francine. Alors voilà, moi, je vais faire suite. Il n'y a pas vraiment de suite au texte que Francine vient de vous lire, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la Gazette des femmes, et ça s'appelle « Le retour du balancier ». En fait, c'est un peu le passé qui devient présent. Après les super-mamans qui conjuguent vie professionnelle et familiale, voici les super-filles qui prennent soin de leurs parents âgés, en plus de leur petite famille, bien souvent. Une tâche qui peut épuiser les forces les plus puissantes quand on s'y investit à fond. Souvent appelées aidantes naturelles, et oui, les superfilles sont aussi connues sur le terme « proche aidante », plus politiquement correct. Une enfant, tu le diriges, alors qu'une personne âgée a toute sa vie derrière elle, dit Patricia, qui est un nom fictif. C'est difficile pour ma mère, c'est maintenant moi, sa fille, qui dois lui dire quoi faire. Chez les parents qui vieillissent et de plus en plus dépendants, les chagrins d'enfants font place à d'autres sentiments, rancœur, jalousie, culpabilité, ennui. Elle n'est pas fine, dit-elle, en parlant de sa mère. On va l'appeler Rosemary. Elle est âgée de 84 ans et affectée par une démence multiple, dont l'Alzheimer. Pourtant, elle a l'impression de tout lui donner, y compris sa propre santé. C'était infernal, je voulais beaucoup trop. J'ai cru à tort que je pourrais de nouveau la rendre heureuse. Patricia limite ses visites maintenant au mardi et vendredi, je vous explique pourquoi. Elle s'est tuée à la tâche. Il y a quelques mois à peine, Patricia avait décidé de prendre une année sabbatique et de s'occuper de sa mère à plein temps. La liste d'attente pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée était beaucoup trop longue. Elle révise toutefois son choix, parce qu'elle perdra beaucoup d'avantages sociaux de son travail. Ils s'entendent donc, elle et son patron, pour 3 jours de boulot et 2 à la maison jusqu'aux fêtes. Après, on verra. Ainsi, après le travail, Patricia fonce à la maison, reconduit la gardienne qui prend soin de sa mère. Et là, le bal du repas commence. Elle doit faire manger sa mère, capricieuse, et user de ruse pour qu'elle termine son assiette. Rosemary se lève aussi souvent la nuit. Patricia dort peu, très peu, guettant sa mère et se levant au moindre bruit. Divertir une personne âgée pendant toute une journée, ça s'avère une tâche des plus difficiles qu'elle ne l'avait imaginée. J'ai réalisé qu'elle ne pourrait jamais être bien. Patricia se tue à la tâche. Son fils de 30 ans ainsi que son mari la voient dépérir à vue d'œil. Elle reçoit une offre de soutien du CLSC qui suggère de placer sa mère en maison de répit pour quelques semaines. La décision est déchirante. La culpabilité est épouvantable, mais Patricia est au bout du rouleau. Rosemary ne retournera jamais chez elle. Patricia et ses 2 frères décident de payer les frais du CHSLD qui est privé le temps nécessaire. Le retour à la maison est impensable. À un moment donné, il faut un mur. Les visites à la résidence sont courtes, mais efficaces. Elle les limite donc le mardi et le vendredi. Autrement, c'est trop, trop difficile de toujours subir ces criminations. Derrière ce génie d'efficacité, son amour inconditionnel pour la femme qu'il a mise au monde transcende ses gestes. L'une n'aura pas raison de l'autre, c'est ce qui compte. Pour Rosemary, qui, sans le savoir, redonnait la santé à sa fille, et pour Patricia, qui trouve maintenant tout naturel d'aider sa maman de cette façon. C'était un texte de Annie Mathieu, paru dans la Gazette des femmes.
Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es OK, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien. C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent la langue. C'est bien, c'est rien. C'est bien l'enfance de la détresse dans les pays de la guerre civile. C'est rien qu'une affaire de business si c'est des armes qu'on leur refile. C'est bien. Et on génocide au soleil, la faute à qui on savait pas. Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles, l'Occident n'a qu'une caméra. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Et c'est en direct qu'on peut voir la suite de Nuit et brouillard. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants du tiers-monde. Et si le progrès se fait la course, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Quand la mort est cotée en bourse, c'est bien. La médecine fait des pas de géant et le sida recule en bloc. Seulement les poules auront des dents avant que l'Afrique ait des médocs. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Ça régule les natalités. C'est plus de faim qu'ils vont crever. C'est bien, c'est rien. C'est bien les gamins de la guerre, un pendu 10 de réprouvé. C'est rien que des gamins militaires, tirera bien qui tirera le dernier. C'est bien. On fabrique des tueurs à la chaîne, jouer aux petits soldats de 10 ans. Et puisque l'horreur est humaine, la guerre n'est plus qu'un jeu d'enfant. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. On laisse un gosse, on viole sa mère, on file des armes à son petit frère. C'est bien. C'est rien. C'est bien des mômes, c'est des forçats. Du fond des mines, c'est des bagnards. C'est rien que des mômes qu'on forcera à se prostituer pour 3 dollars. La saloperie se dépayse. Pédophilie ou exotisme au moins. Ça rapporte des devises, sexuelles ou pas. C'est du tourisme. Et pas autrement. Merci papa, merci maman. La vérité, c'est que c'est l'argent qui sort de la bouche des enfants. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants de l'inceste. C'est rien que les enfants du mépris. Y'a qu'à pleurer sur ce qu'il en reste. C'est plus que les enfants du gâchis. C'est bien. Et l'enfant dodo, l'enfant morte. Celle que je t'aimais, pourquoi faire. Dont l'enfant donne ce que je porte moi. C'est l'enfance de la colère. Comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Si je suis venue au monde de fou. Merci papa, merci pour tout. C'est bien. C'est rien. C'est bon.
Merci.
C'est non.
Merci maman, merci papa. Agnès Bill.
Merci beaucoup Mathieu. Alors voilà, je redonne la parole à Francine et ses textes qui nous surprennent à chaque fois. Merci Francine.
Toujours la vie avant l'Internet. Alors, cette fois-ci, on va dans le domaine culturel, dans la presse plus, toujours, 25 novembre. Le texte est d'Alexandre Vigneault. Avant l'Internet, on n'achetait pas un billet de spectacle sur son téléphone. On faisait la queue au petit matin devant le forum. Alors ça fait longtemps quand même, le forum. Dans l'espoir de mettre la main sur des places pour voir Pink Floyd, par exemple. Avant l'Internet, on ne pouvait pas écouter le nouveau disque de U2 avant sa sortie en magasin. Avant l'Internet, on patientait jusqu'au prochain épisode pour savoir si Bobby Ewing de la série Dallas était mort ou juste blessé. Dallas, oh là là. Avant l'Internet, il fallait attendre. Et oui, c'est ça. Et c'est notre rapport à la télévision qui en est le signe le plus éloquent en 2018. Avec l'avènement de plateformes de diffusion sur demande comme Netflix et Amazon, on peut avaler la nouvelle saison de Shadowhunters ou de House of Cards en 2 jours si on veut. Le suspense, on n'y résiste plus. On clique sur le prochain épisode. On a toujours le temps pour un petit dernier avant le dodo, n'est-ce pas?
Oh, que oui!
Il faut savoir ce qui arrive, ce qui arrive! Avant l'Internet, on restait sur les nerfs ou sur notre faim. Ce qui a longtemps caractérisé la télévision, c'est qu'il s'agissait d'un contenu qu'il fallait littéralement suivre et sur lequel on n'avait aucune emprise, rappelle Antonio Dominguez Leva, qui est co-directeur de Pop en Stock et professeur au département d'études littéraires à l'UQAM. Ainsi, même si on se doutait que Pierre Lambert, personnage central de L'Anse et Compte, allait un jour gagner la Coupe Stanley, il n'y avait absolument aucun moyen de le voir porter le prestigieux trophée avant la fin de la saison. Le concept même de saison n'allait pas de soi. Quand j'étais jeune, c'était pas du tout comme ça que je percevais les séries. Une série, c'était une émission qui passait tel jour à telle heure. Confinées à une case horaire précise, les émissions de télé n'étaient d'ailleurs pas toutes conçues en fonction d'une progression dramatique. Plusieurs proposaient des histoires qui se bouclaient au cours d'un même épisode, comme les Simpsons. Dans le cas des soaps, la progression était tellement lente qu'on pouvait en perdre une dizaine et on enchaînait à peu près au même moment de l'intrigue, relève le professeur Dominguez Leva. Et ça, c'est vrai. Hein, on ne l'écoutait pas, peut-être qu'on revenait, puis on était déjà dans l'action, dans le suspense. Avant l'Internet, regarder la télévision avait un aspect rituel. On s'installait le jour, dit à l'heure, dit, et on suivait les filles de Caleb en famille. Ce rituel n'est pas entièrement perdu, signale-t-il. Il est vrai que les chaînes généralistes ont encore du poids au Québec. Fin octobre, District 31 a attiré 1 500 000 téléspectateurs.
Oh, j'allais en parler justement.
Unité 9 a fait presque autant. C'est moins que les 4 millions de La Petite Vie en mars 1995. Ça, je pense que même les bébés l'écoutaient, cette série-là. Un record inégalé en télé québécoise, dit-on. Mais ça, c'était une toute autre époque. Jeune, dans sa Galice natale, le professeur d'université a connu la fin des veillées de village au cours desquelles les gens chantaient, qui a provoqué ce changement, l'arrivée de la télé au bar. Les gens se sont réunis au bar pour regarder la télé, se rappelle-t-il. On vit à l'ère de chacun son écran. Chaque membre de la famille peut avoir sa propre émission et son propre rendez-vous. Même Netflix, par exemple, cherche encore à créer l'événement en diffusant chaque semaine un nouvel épisode d'une série prisée pour les ados comme Riverdale. Comme avant l'Internet, il reste que oui, on peut être trois sur le même canapé à regarder trois émissions différentes, par exemple. Alors, le texte d'Alexandre Vigneault, je m'excuse, avant on attendait, La Presse Plus, 25 novembre 2018.
Oui, alors voilà. Quant à moi, je continue toujours sur le même thème et toujours dans la même source, la Gazette des femmes. Un autre texte, celui-là, signé par Marie-Hélène Verville. Et je vais vous parler du communautaire, l'avenir des soins aux personnes vulnérables. Le scénario se répète souvent. Après avoir attendu 6 mois, une personne âgée et malade reçoit enfin l'aide du CLSC, mais c'est insuffisant, car la majorité des aînés en perte d'autonomie sévère n'ont pas le moyen de se payer des soins privés d'appoint. Et que fait alors la proche aidante lorsqu'elle est à bout de souffle et que le CLSC déborde? Ben, elle se tourne vers le communautaire. Au regroupement des aidants naturels du Québec, le nombre d'organismes membres a triplé depuis 15 ans. Au départ, nous devions accompagner l'aidant vivant une situation difficile, car malheureusement, les services publics allaient à l'aidé et non pas à l'aidant. On se substitue donc carrément à l'État. En Montérégie, à Montréal, ceux qui œuvrent en santé mentale ou avec les personnes handicapées ont aussi vu leur clientèle augmenter et les listes d'attente terriblement s'allonger. Au public, avant, il y avait une complémentarité avec les services communautaires. Là, on balait carrément les gens vers les organismes parce que le public n'offre plus les services ou que les critères d'admissibilité ont augmenté. Quelle est donc la place des organismes communautaires dans le système de santé? Il faut d'abord que les soins soient adaptés aux clients. Et ce sont les établissements qui sont en mesure d'évaluer puisqu'ils sont sur le terrain. Or, le recours aux organismes communautaires est de plus en plus populaire au sein du réseau. Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, les subventions accordées aux organismes en maintien à domicile ont bondi de 23 années les 3 dernières années. C'est énorme. Les services communautaires ne sont pas universels. Plusieurs proches aidantes n'y trouveront pas leur compte. Une partie des usagers a été transférée vers des centres communautaires ou privés. Par exemple, dans certaines régions, les tarifs ont doublé. Sylvain Lirette, qui est éducateur spécialisé en gériatrie et porte-parole du Bas-Saint-Laurent, dit ceci. D'abord, il est amer et au public, cette clientèle était suivie par une équipe multidisciplinaire comprenant physio, infirmière, éducateur, technicien en loisirs, travailleur social. Dans les centres de jour privés, c'est la responsable de la comptabilité qui fait des fois office de technicienne en loisirs. À Laval, les listes d'attente pour accéder aux centres publics sont longues. Il n'est pas rare que l'aîné soit trop malade ou même décédé lorsque vient enfin son tour. En attendant, cet aîné n'est pas pour autant servi par des centres communautaires. Dans le milieu du soutien à domicile, les salaires des employés du secteur privé et communautaire sont modestes et le roulement du personnel est élevé par rapport à ce qu'on observe chez leurs homologues du public. Comme chez les procédantes, ce monde est largement féminin. Le gouvernement, lui, il sait très bien que les femmes seront toujours là pour s'occuper des gens. C'était donc un texte tiré de la Gazette des femmes de Marie-Hélène Verville en octobre dernier.
Si la chance ne tourne pas pour toi, et si la danse compliqué c'est pas, compliqué c'est pas. Quand la nuit tombe, si la vie t'a mal dans ses flots. Même si la nuit tombe sur la mer de tes idéaux.
Qui sait, peut-être,
un jour la chance te sourira.
C'était Dumas et la chanson La Chance. Et sachez, mes chères dames, que nous, la famille Kruger nous écoute directement de la ville de Cologne.
Oh! Oh.
là, nous sommes épatés.
Oh, on fait à l'international maintenant. Oui. C'est assez exceptionnel, d'autant plus que mon prochain texte, il est extrait de Paris Match.
Ah ben voilà, Alors, nous saluons cette famille avec bonheur. Vas-y, Francine.
Mathieu disait qu'on était un peu tranquille aujourd'hui, vous et moi. Alors imaginez si on n'était pas là, ni vous, ni moi, probablement ni Mathieu, et que l'émission se faisait quand même.
Des robots.
Ce présentateur n'existe pas. C'est un texte qui a été pris dans les textes que la Presse Plus reproduit le dimanche et qui viennent de Paris Match, qui sont extraits de Paris Match. Alors, il n'y a pas de jour de congé, ce présentateur, pas de salaire. Il ne part jamais à la retraite. Et il travaille 168 heures par semaine. Quand même, hein? On n'est pas performant à côté de ça.
Les autres font des journées de plus de 24 heures.
Oui, c'est ça, effectivement.
Ils ont réinventé ça.
Oui, oui. Alors, c'est Romain Clerga de Paris Match qui nous en parle. Alors donc, il ne dort pas, c'est le présentateur, il ne prend jamais de vacances, puis il ne demande surtout jamais d'augmentation.
Oui, puis il ne prend pas de pause. Hein?
Non. Mmh. Xinhua, la plus grande agence de presse chinoise, vient de révéler comment sera l'animateur de télévision de demain? Non. Pardon, d'aujourd'hui. À l'écran, la ressemblance est troublante et la gestuelle d'ensemble également. Le visage, imaginez-vous, là, le visage s'anime, les lèvres bougent, les yeux fixent la caméra et les informations sont débitées comme si c'était un vrai présentateur. Sur un ton monocorde, cependant, mais on a franchi un cap, car il ne ressemble en rien à un personnage de jeu vidéo. Il fait vrai, vrai, vrai. Depuis quelques années, des agences de presse, comme Associated Press, Reuters, utilisent des algorithmes pour publier des bulletins d'information basiques sur des résultats de sport ou financiers, ne nécessitant pas autre chose qu'un langage factuel. Un algorithme transforme alors les data brutes en phrases que les humains peuvent comprendre. Alors, pour créer ces avatars, ils synthétisent leur voix, leurs mouvements de lèvres et les expressions de leur visage. Un processus complètement différent de la création d'un visage numérique, comme dans les jeux vidéo, par exemple. Et alors, évidemment, ça se fait grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des algorithmes, et ça nous crée des présentateurs. Les fake news, maintenant, et on pourrait avoir une discussion, parce que c'est sûr, ça ouvre toute la porte.
Oui, on va l'avoir, la discussion. Et ce ne sera pas long. Ne quittez pas. Une courte pause et nous sommes de retour par la suite. Oui, bien bonjour. Excusez mon rire, c'est parce que là, c'est de la bonne humeur ici dans le studio. Alors voilà, merci d'être resté à l'écoute. De mon côté, je vais vous entretenir d'encore une fois de mon thème préféré, qui sont les parents âgés.
Oui, puis c'est pas une fake news, là, cette affaire-là.
Non,
ça n'a rien à voir avec ce qui pourrait résulter de nos présentateurs qui sont des robots, en fait, il faut vraiment le dire. Hein?
Et je vous avise toutes, je ne suis pas un robot. Enfin, pas encore. Je vais vous parler de... C'est une rubrique qui est parue dans Travail, Santé, Vie. C'est un volet Internet que j'aime beaucoup. Et c'est accueillir chez soi un parent âgé. Quels sont les avantages, les inconvénients? On va faire ça en survol. Nombre d'aidants naturels admettent qu'accueillir chez eux un parent âgé a été l'une des décisions les plus difficiles à prendre. Il y a des répercussions sur la vie de toutes les personnes en cause. Il est important de faire preuve de réalisme à l'égard de votre relation actuelle avec votre parent âgé. De plus, et ça c'est bien important, vous devriez parler des attentes de chacun et vous assurer que votre parent et les membres de votre famille discutent honnêtement. Il faut réfléchir aux aspects d'ordre pratique, notamment le soutien extérieur que vous pourriez disposer. Parler de vos attentes, c'est parler avec votre parent âgé des raisons qui font qu'il ou elle veut vivre avec vous et des préoccupations de chacun. Faire preuve d'honnêteté, de réalisme. Assurez-vous que vos attentes sont compatibles. Peut-être espérez-vous une gardienne qui sera toujours disponible, mais c'est peut-être pas nécessairement ce qu'avait prévu votre parent. Il se pourrait que celui-ci ou celle-ci s'attende à participer aux activités familiales. Puis des fois, c'est pas toujours pratique, puis pas toujours souhaitable. N'oubliez pas, il faut maintenir son intimité. Jusqu'où ses besoins vont-ils et à quel point sont-ils réalisables? C'est important que vos enfants parlent avec vous sur tous ces sujets-là, à votre conjoint ou votre conjointe aussi. Tous sont-ils prêts à accepter les changements nécessaires? Et les conditions d'ordre pratique, il ne faut pas les oublier. Tous les soins dont votre parent a besoin, il faudrait que vérifiez auprès de votre service communautaire pour obtenir des soins supplémentaires. Réunissez-vous avec les familles de, les membres de votre famille éloignée et questionnez-les sur l'aide qu'ils peuvent vous apporter. Pensez aux adaptations que vous devrez apporter à votre domicile. Votre parent âgé a sa vie sociale et ceci est très important pour cette personne-là. Ne pas négliger cet aspect. Les dépenses du foyer peuvent aussi augmenter. Compensation financière à prévoir pour les adaptations apportées à votre maison, comme je l'avais dit un peu plus tôt. Mais qui pourra contribuer à partager les coûts? Faites un essai d'un jour ou un séjour temporaire qui vous permettra d'évaluer si vous pouvez vivre avec votre parent. Et ici, on précise d'organiser un séjour qui ne dépasse pas 2 mois et essayer des nouvelles routines avec des nouveaux arrangements. Je pense que c'est très sage, ça, finalement. Même avec les meilleures intentions du monde, les premières semaines s'avéreront sans doute un peu difficiles pour tous. Faites participer tous les membres de la famille au déménagement de votre parent âgé. Aidez vos parents à aménager sa chambre afin qu'ils se sentent plutôt bien. Encouragez votre parent âgé à maintenir une vie sociale, ça c'est bien important, et à vivre de façon autonome. Chaque semaine, et ça c'est peut-être la partie la plus importante, consacrez du temps à votre famille sans votre parent âgé. Maintenez vos liens avec votre famille, c'est bien important. Bien que le processus de cohabitation puisse être difficile, s'il fonctionne, la présence d'un parent âgé pourrait se révéler bénéfique pour tous. Car soyez réaliste à l'égard de vos attentes et parlez-en franchement. Votre parent âgé, votre famille et vous pourrez alors décider si la cohabitation vous convient. Alors, c'était un texte de réflexion sur bien du travail, santé, vie et accueillir chez soi un parent âgé. Francine, que nous dites-vous?
Alors, je deviens peut-être un peu trop sérieuse pour Mathieu, mais ainsi va la vie. C'est ce qu'on a prévu aujourd'hui au programme, n'est-ce pas, Hélène?
Absolument.
Bon, voilà. Alors, je reviens avec notre philosophe préféré, Normand Baillargeon. Ça fait longtemps que je vous en ai parlé.
Oui, on s'en est. Alors,
oui, il chronique toujours dans Le Voir. Dans l'édition de novembre 2018, il nous pose la question suivante. Le séquençage de votre génome... Ça vous tente? On appelle génome l'ensemble du matériel génétique d'un organisme en un mot de son ADN. Séquencer votre génome, cela signifie donc faire un portrait de vos gènes. Voici comment ça se passe. Vous paierez d'abord par Internet à la compagnie de votre choix le montant demandé, généralement quelques centaines de dollars. Vous recevrez ensuite par la poste un flacon dans lequel vous déposerez un peu de salive. Vous enverrez ensuite le flacon à l'adresse indiquée. Peu de temps après, vous obtiendrez le séquençage de votre génome. Facile, hein? Ces gestes nous rappellent combien, en génétique, les choses avancent à une vitesse extraordinaire. Il y a une quinzaine d'années à peine, on vous aurait demandé quelques millions de dollars pour ce travail et seuls quelques très riches privilégiés auraient pu se payer ce luxe. Le séquençage du génome est désormais accessible à tout le monde. Si la procédure est interdite dans certains pays, comme la France, la simplicité de la démarche permet à quiconque le souhaite de contourner la loi. Comme c'est souvent le cas avec les avancées technologiques, on se retrouve aujourd'hui devant des promesses et des périls plus ou moins anticipés qui soulèvent des enjeux éthiques souvent redoutables. L'autonomie de la personne est une des valeurs clés de nos démocraties libérales. Et cela explique en partie la grande importance que nous accordons à l'éducation. La personne autonome doit en effet être outillée pour faire de manière consciente et en toute connaissance de cause les choix qu'elle fera. En médecine, Cela se traduit notamment par l'exigence d'un consentement éclairé. Or, ces analyses du génome peuvent être lourdes de conséquences et il est indispensable que les personnes qui choisissent de s'y prêter le fassent en toute connaissance de ce que cela implique. On pourra, en découvrant ces résultats, apprendre des choses plutôt banales et pour certaines déjà connues. Vous perdrez tôt vos cheveux. Votre urine sent mauvais quand vous avez mangé des asperges. Ça, c'était pas mal une vérité de la palisse. Vous ne pouvez pas faire un rond en pointant votre langue. D'autres encore. Mais vous pourrez aussi apprendre des choses graves, voire dramatiques. Le souhaitez-vous? Il y a certes des arguments qui incitent à vouloir apprendre qu'on développera une maladie grave ou qu'on risque de la transmettre à nos enfants. Mais il y a aussi des arguments qui militent contre cette décision. Les connaissez-vous? Saurez-vous les poser? La confidentialité aussi est en cause. L'entreprise qui aura séquencé votre génome vous demandera, si elle peut, de manière anonyme et sans révéler votre identité, rendre accessibles vos données aux chercheurs. Compte tenu des promesses d'avancement des connaissances et des traitements, vous serez peut-être tenté de répondre oui. Mais beaucoup de gens ne font pas par peur que l'on puisse retracer l'origine de leurs données. On comprend sans mal leurs craintes. Imaginez ce qui peut s'en suivre si des compagnies d'assurance, ouais. Ou des employeurs peuvent savoir, pour m'en tenir à cet exemple, que telle ou telle personne présente un risque de développer une maladie grave. Nous vivons, pour le meilleur et pour le pire, dans un monde dominé par une économie de marché. Mais il y a de bonnes raisons de penser que certaines choses, par essence, ne devraient en aucun cas être achetées et vendu. Devons-nous permettre la marchandisation et donc la privatisation des données génétiques? Si oui, jusqu'où? Par le séquençage de génomes personnalisés, nous sommes déjà devant l'obligation de répondre à ces difficiles questions. Difficiles questions, toujours pertinentes. Merci Normand Baillargeon. Cette chronique publiée dans Le Voir, novembre 2018.
Merci infiniment, Francine, de l'avoir apportée. Et ma question, ma seule question, je sais qu'on n'a pas la réponse, qui est derrière ces laboratoires?
Exactement, exactement. Quand on parle de personnes qui ont intérêt à avoir de l'information là-dessus, on peut effectivement se questionner sans soupçonner de prime abord, mais on peut questionner,
Ça doit coûter très cher de subventionner ces compagnies-là.
Exactement, exactement.
Nous y reviendrons un jour.
Oui, alors sujet très sérieux. N'est-ce pas, Mathieu?
You take an inch, I run a mile. Can't win your own.
J'espère que tout le monde a bien dansé. C'est venu danser dans le studio. Je sais que ça danse un peu partout. C'était les Spice Girls et leur chanson Stop. C'est tout.
Hop. C'est tout. Hop, hop. Mais on a fait tout hop aussi dans le studio. Ça a régénéré l'atmosphère comme si elle avait besoin d'un peu plus.
Oui, c'est ça. Là, on est parti. On peut faire une émission joyeuse pendant une heure. Je ne sais pas si on défait la programmation en faisant cette proposition. Peut-être
un peu. De mon côté, je vais vous entretenir de quelque chose qui m'est pépin aussi. Il paraît que Montréal est une destination tendance pour une retraite heureuse. Alors voilà, c'est proximité plutôt que les grands espaces, c'est le choix que font ces retraités. Je vous en parle de quelques-uns. De plus en plus de gens choisissent Montréal donc pour leur retraite, que ce soit pour se rapprocher des enfants, être au cœur de l'action ou développer de nouvelles activités, nouvelles amitiés. Les raisons sont nombreuses, des témoignages très inspirants. Yves était journaliste. Joanne, originaire de l'Ouest canadien, elle enseignait l'anglais, langue seconde, excusez-moi. Ils ne voulaient ni abandonner leur vie active sociale, ni s'éloigner de leurs habitudes. Depuis qu'il est à la retraite, le couple ne s'ennuie pas une seconde. Joanne promène son chien dans les parcs du quartier. J'adore sortir tôt, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. La ville est calme et belle. Si elle part tôt, c'est parce qu'elle est tout occupée tout le reste de la journée. Il y a 2 ans, elle a commencé à suivre des cours d'allemand, n'est-ce pas, Mathieu? Et elle pratique toujours le piano qu'elle a commencé au lendemain de ses 60 ans. Ben voilà, un beau programme. Yves, lui, part tous les matins au YMCA, quelques minutes de chez lui. Et dans les beaux jours, vous le croiserez probablement sur son vélo. « Depuis que je suis à la retraite, explique l'ex-journaliste, j'ai jamais fait autant de sport. » Et c'est l'histoire de son quartier qui le passionne. Il consacre au moins une ou deux journées par semaine à fouiller dans les archives de Montréal et la mémoire des Montréalais. Intarissable sur les anecdotes et le patrimoine de son quartier, il donne en même temps des conférences à la bibliothèque près de chez lui. Un autre couple, Ruth et Claude, s'étaient toujours promis qu'ils vivraient un jour dans une grande ville. Le couple a passé sa vie au Saguenay. C'est là que sont nés et ont grandi leurs enfants. Mais une fois ceux-ci partis, la maison devenait grande puis la vie un peu trop tranquille pour ce couple actif. Alors devinez, ils sont venus s'installer à Montréal. « On aime sortir », raconte Ruth. « Avec mon chum, la culture, le cinéma, les musées, on en mange ». L'offre culturelle de Montréal les a tout de suite séduits. Se promener sur Saint-Laurent, flâner en ville, prendre le métro, aller au cinéma, découvrir les parcs, il y a toujours des choix. On fait beaucoup de choses à deux, mais mon chum aime ça aussi, aller se balader tout seul. Tout est proche à Montréal, il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, on retourne de temps en temps au Saguenay pour voir notre fille qui est restée là-bas, mais on aime toujours ça revenir en ville et profiter de l'action. Les Québécois quittent le marché du travail plus tôt que le reste des Canadiens. L'âge moyen de la retraite au Québec est 59 ans et dans le reste du pays est de 62 ans. Et pendant ce temps, l'espérance de vie passe chez les hommes chez les hommes à 78 ans et chez les femmes à 83. Le temps de le passer à la retraite s'allonge donc, c'est un élément dont il faut tenir compte. En général, vivre à Montréal est beaucoup moins cher qu'on ne le pense. Mais ce n'est pas ça l'argument principal. Les retraités vendent souvent une maison pour vivre dans un logement plus petit correspond à leur mode de vie. Ils recherchent également le côté pratique, accessibilité au parc, bord de l'eau, proximité des soins, c'est pas rien, facilité à se déplacer en transport en commun. Et ça, c'est vraiment important. Montréal offre un vaste choix de copropriétés pour eux, notamment des projets neufs et une variété de résidences qu'on ne trouve nulle part ailleurs. De nombreux quartiers répondent aux attentes des retraités, notamment Verdun, quartier Angrignon, centre-ville. Pas étonnant qu'ils soient de plus en plus nombreux à choisir Montréal pour vivre une retraite heureuse. C'était un texte de Habiter Montréal, paru en novembre 2018. Francine, je vous écoute.
Alors, vous parlez de retraite, une ville comme Montréal. Ici, on passait cette retraite dans une maison imprimée en 3D.
Ah, c'est fantastique! Ah!
Hein? Fantastique! Je sais pas l'hiver, là, mais en tout cas... Bon, alors donc, la maison du futur sera-t-elle imprimée en 3D? C'est une idée d'ailleurs. Hein? Il y a cette chronique qui est publiée de temps à autre dans la Presse Plus. Alors, cette chronique, elle est parue le 15 octobre 2018 et c'est Suzanne Colperon qui en est l'auteur. Alors, dès l'an prochain, il y a 5 maisons imprimées en 3D qui vont accueillir leurs premiers occupants aux Pays-Bas. C'est une technique révolutionnaire qui peut, peut-être, elle pose la question, aider à résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs de la construction au Québec.
Peut-être.
La ville d'Eindhoven, est-ce que c'est bien dit, ça? Est-ce que je prononce bien, Mathieu?
Monsieur.
Eindhoven, aux Pays-Bas, est-ce que je prononce bien Eindhoven? Oui.
Ça doit.
Bon, OK, merci Mathieu.
On a beaucoup apprécié votre prononciation, c'était parfait.
Alors, cette ville sera la première au monde à louer et à vendre des maisons fabriquées avec la technique d'impression 3D. À quoi vont ressembler ces habitations-là? Mais elles vont sortir de terre, alors déjà, c'est une bonne nouvelle. Elles auront des formes arrondies irrégulières et de larges ouvertures. Ça me fait penser un peu à la maison des Hobbits. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les Hobbits, dans Tolkien? Le Seigneur des Anneaux,
oui, c'est ça.
Alors, ça fait penser un peu à ça. La première sera créée à l'Université de technologie d'Eindhoven, puis transportée sur le site. Les 4 autres seront imprimées sur place pour attirer de futurs acheteurs et locataires. Alors, c'est une véritable innovation, évidemment, dans le domaine de la construction. L'impression en 3D, elle, repose sur un bras robotisé qui superpose des couches de béton à partir d'un modèle informatique. Pourquoi on construit en 3D? Alors, par rapport à la construction traditionnelle, cette technique-là offre le net avantage de faire gagner du temps et épargner de l'argent. Elle permet aussi de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'imaginer des formes complexes qui sortent de l'ordinaire. La technologie d'impression 3D de bâtiments n'est pas nouvelle. En 2004, il y a un professeur, le professeur Kostnevis de l'Université de Caroline du Sud, qui a fait parler de lui en présentant un premier mur de béton imprimé en 3D. Sa technologie, appelée Counter Crafting, permettrait de créer une maison en une journée grâce à une imprimante 3D montée sur un bras robotisé. Depuis cette annonce, les projets de recherche se multiplient. Est-ce que c'est une bonne idée pour le Québec? Bien, disons que l'avis de l'expert qui avait été consulté là-dessus semble dire que ça pourrait peut-être pas régler tous les problèmes, mais en tout cas, peut-être qu'on pourrait y réfléchir puisque les avancées technologiques sont indéniables et que cette nouvelle approche ne peut qu'avoir une influence certaine tant sur l'approche de conception des architectes que sur les méthodes et l'industrie de la construction. Alors, cet article, je le répète, est paru dans la Presse Plus, dans la section « Idées d'ailleurs », 15 octobre 2018.
Francine, à quand le bonheur en 3D?
Ah, oh, je ne sais pas, mais moi, je pense que ça s'en vient. Ouais, une petite maison de Hobbit.
Moi aussi, j'ai brûlé des machines, la cime de l'usine, les rouages de la politesse, l'horloge dans l'horloge. Ma maison, ma maison, ma maison, ma l'effort, le travail, l'allergie, moi aussi je peux. L'hiver, je peux moins.
J'ai plus le syndrome de l'imposteur.
Elle aussi voulait chanter. C'était Urbain Desbois qui chantait « Ma maison travaille plus que moi ». Je m'étais préparé une autre chanson au cas où, puis finalement, les deux ont... Voilà.
Voilà, ben, pas de problème, mais c'est parce que les deux voulaient travailler en même
exact.
Temps. Là.
Un peu difficile.
J'ai bien aimé le bruit de la scie en arrière, c'est fou. Belle idée. Alors voilà, moi de mon côté, je vais vous parler de l'art-thérapie, la pratique artistique qui améliorerait notre santé. Alors c'est un article que j'ai puisé dans Le Devoir de Caroline Montpetit, paru très très récemment, 14 novembre 2018. La pratique des arts plastiques avec un groupe sur une base régulière permettrait de faire passer l'état de santé de personnes âgées de fragile à vigoureux. C'est ce que laisse entendre une étude menée auprès de 150 participants à cette activité qui s'appelle les Beaux Jeudis. Organisée au Musée des Beaux-Arts de Montréal en collaboration avec le Centre d'excellence sur la longévité de l'Hôpital général juif. L'étude a permis de suivre 150 participants, comme je le disais, de 65 ans et plus, en bonne santé, et ils ont participé à des ateliers hebdomadaires d'art visuel durant 3 mois. Or, après 3 mois de pratique des arts, les évaluations de la santé ont démontré que 27 % des personnes fragiles sont devenues vigoureuses en cours de pratique. Et il y a non seulement il y a des augmentations sur le bien-être, mais aussi sur la santé physique. Cette étude ne s'est pas arrêtée là. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal et l'Hôpital juif entendent exporter leur modèle dans 11 lieux différents à travers le monde. Différents musées pourront aussi utiliser la formule des Beaux Jeudis pour y arriver. Le docteur Howard Steger, désolé pour la prononciation, chef du programme des troubles de l'alimentation de l'Hôpital Douglas, lui, il s'est servi de cette étude pour observer plusieurs de ses participants qui souffraient d'anorexie. En entrevue, le chercheur affirme cependant que cette thérapie ne peut pas, évidemment, remplacer toute autre forme de thérapie, mais pour les troubles de l'alimentation de l'hôpital Douglas, ceci a fonctionné. Mona Trudel, de l'École des arts visuels de l'UQAM, présentait quant à elle, au symposium, les résultats préliminaires auprès de clientèles marginalisées dans différents refuges de Montréal, soit Old Mission Brewery, Pavillon Lisoitier et Accueil Bonneau. Ces disciplines ont été choisies en fonction de besoins identifiés par les intervenants dans ces différentes maisons. Au Pavillon Lisoitier, qui accueille des femmes, on a favorisé la danse pour permettre aux femmes de travailler la conscience du corps, la présence de son corps. On a vraiment offert des activités en fonction des besoins de chaque milieu, dit Mona Trudel, qui dit avoir constaté une stabilisation chez les personnes suivant les activités. Le programme est en cours. Il reste à analyser les résultats finaux et je vous reviendrai, c'est bien sûr, pour la suite des choses. Par contre, un tout petit volet nouveau que j'ai trouvé avant-hier, c'est, savez-vous, entre autres, que le Musée des Beaux-Arts organise des activités culturelles gratuites pour les aînés. Tous les jeudis, c'est pas l'histoire des Beaux Jeudis, mais tous les jeudis, offre aux personnes un libre accès à ses collections, à toutes les personnes qui ont 65 ans et plus. Propose une panoplie d'activités intéressantes et gratuites qui permettent d'aborder la création sous de multiples facettes. En plus, un atelier créatif, une boîte en cadeau. Le 6, 13 et 20 décembre, en matinée, au Musée des Beaux-Arts. Allez-y! À vous, Francine!
Oui, alors pour terminer, des jouets techno. Alors, cette semaine, on en a beaucoup parlé des jouets techno. On a présenté des choses qui, en fait, pourraient s'inviter sous le sapin. C'est pas moi qui le dis, là. C'est dit comme ça dans l'édition du 24 novembre 2018 de la Presse Plus, dans la section Noël Ensemble. Et ensuite, on a publié de nombreuses mises en garde, c'est-à-dire, bon, comme tout outil de domotique, évidemment, on peut enregistrer des choses à votre insu. Google, qui nous suit partout, bien évidemment, il ne se gêne pas pour nous suivre parfois par le biais de ses petits jouets.
Exact.
Et il y a souvent des renseignements personnels qui peuvent être demandés pour les activer. Néanmoins, je vous parle de quelques-uns d'entre eux. Alors, l'ami robot, c'est un petit robot qui est téléguidé, qui interagit avec le mouvement des mains. Équipé de capteurs infrarouges et tactiles, Boxer, qui s'appelle, a une personnalité étonnante qui évolue avec le temps. Et ses yeux lui permettent d'exprimer des émotions tangibles. Avec son micro-moteur, il se déplace à une vive allure de façon autonome. C'est pour les 5 à 12 ans. Ensuite, un fidèle compagnon. Fiston va avoir un chien, Zoomer Playful Pop, un mignon toutou interactif qui aboie de bonheur lorsqu'il se fait câliner ou gratter le ventre. Il apprend même à reconnaître son propre nom. Il est débordant d'énergie. C'est un chiot robot qui peut aussi sauter et marcher. Il a des oreilles poilues, il a une langue pendante, puis sa queue remue. Alors, ce petit chien-là, il est prêt à faire les 400 coups pour toute la famille et à partir de 5 ans, on peut se le procurer.
Merci beaucoup, Francine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été tous à l'écoute. Je vous redonne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.
Au revoir, Hélène.